Radio France Internationale, il est 9h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Le journal avec Guillaume Ouattara. À la une, Guillaume, en Birmanie, les secours s'essoufflent et l'aide peine à arriver 3 jours après le séisme. Mandalay reste à genoux.
Plus de 1700 morts, des zones inaccessibles et des ONG confrontées à un véritable casse-tête logistique. En Corée du Sud, un geste anodin, un désastre historique. 30 morts, 48 000 hectares détruits, les pires incendies jamais enregistrés dans le pays. Un homme est soupçonné d'avoir provoqué l'un des feux lors d'un hommage funéraire.
Le dossier du 9h nous emmènera en Turquie où la rue gronde toujours contre Erdogan. Une semaine après l'arrestation du maire d'Istanbul, l'opposition appelle à de nouvelles manifestations avec un mot d'ordre, élections anticipées et libération d'Imamoglu.
En France, Marine Le Pen joue gros ce matin devant la justice. Dans une heure, le tribunal de Paris va dire si elle est coupable de détournement de fonds européens et si elle est déclarée inéligible immédiatement ou pas. Et puis SOS Océan à Paris, un cri d'alerte pour les maires du globe. Un sommet pour alerter sur l'urgence climatique et économique en mer, manifeste, rapport et voix symbolique. Celle d'Harrison Ford pour tirer la sonnette d'alarme.
En Birmanie, les secours s'essoufflent, l'aide tarde et les chances de retrouver des survivants sont de plus en plus minces.
3 jours après le séisme dévastateur qui a frappé Mandalay et sa région, le bilan officiel dépasse les 1700 morts, un chiffre qui pourrait encore grimper dans les prochaines heures selon les experts. L'ampleur des dégâts combinée à la chaleur écrasante et aux difficultés d'accès complique considérablement les opérations humanitaires. L'ONG Acted, présente en Birmanie depuis 2008, a redéployé ses équipes au plus près de l'épicentre. Mais atteindre les victimes reste un véritable parcours d'obstacles. Écoutez Aurélien Donnet, le directeur général délégué d'Acted.
Elles ont mis 11 heures quand même pour atteindre la ville et ce qu'elles ont constaté en venant de Yangon, c'est des destructions de plus en plus importantes à mesure qu'elles se rapprochaient de l'épicentre. Une autoroute coupée en plein milieu, elles ont dû passer par des routes alternatives pour rejoindre le nord. Mandalay est une grande ville, c'est très urbain. Beaucoup d'habitats, d'hôpitaux, d'écoles se sont effondrés, mais littéralement, il n'y en a plus de traces. Il y a eu des secousses hier et donc les personnes étaient plutôt à dormir dehors ou dans des hôtels en dur. Des familles recherchent leurs proches dans les décombres. Évidemment, l'électricité qui est très instable, voire complètement coupée dans tous les endroits qui ont été détruits, et le réseau téléphonique très très instable également. La première chose qu'on a immédiatement activée, c'est l'aide en soutien financier des familles qui se retrouvent dehors, des moyens financiers pour que ces familles puissent aller se fournir sur les marchés qui restent encore fonctionnels. Et donc l'idée, ça a été d'avoir une aide immédiate au sein de Mandalay, mais aussi à l'extérieur. Les zones rurales, on en parle très peu, mais elles sont également très touchées, parfois moins accessibles.
Aurélien Donnet, directeur général délégué d'Acted, joint par Joris Zilberman pour RFI.
En Corée du Sud, les pires incendies jamais enregistrés ont fait 30 morts et ravagé 48 000 hectares en une semaine.
Oui, un homme de 56 ans est soupçonné d'avoir déclenché l'un des feux en brûlant des branchages lors d'un rituel funéraire près de la tombe de ses grands-parents. Il n'a pas été placé en détention, mais une enquête est en cours. Reportage à Myeongjin-i, village agricole particulièrement touché, de la correspondante de RFI, Camille Ruiz.
Au milieu des ruines noires de Sui, Oh Nam-sun est venu prendre des photos de la maison de ses parents.
Là, c'était la cuisine. Il y avait un évier, des étagères et notre frigo. Tout a brûlé. Et tout ce qui pend ici, c'était la salle de bain. La machine à laver a complètement fondu. Il n'y a plus que de la rouille. Tout s'est effondré.
Quelques pas plus loin, le maire du village, Lee Ho-un, 61 ans, déambule à travers les débris. De sa maison, il ne reste que quelques tôles de son toit et enfouit dans un tas de cendres les os de ses poules et une corne de chèvre. Elles ont été prises au piège par les flammes.
Ça, c'était ma maison. J'avais mon entrepôt là-bas et là il y a une caméra. Alors j'ai regardé les vidéos en direct jusqu'à ce qu'elles ne fonctionnent plus.
Le fermier est né ici et a grandi au milieu de ses champs et de ses collines désormais calcinées. Par miracle, certaines terres ont été épargnées. 3 hommes pulvérisent déjà des herbicides sur une de leurs cultures d'oignons. Ils retourneront ce soir au gymnase de la ville d'Andong, transformé en abri provisoire. Le gouvernement prévoit une aide financière urgente à destination des victimes touchées par les incendies. Ces feux sont déjà considérés comme les plus destructeurs de l'histoire de la Corée du Sud. Camille Ruiz, Andong, RFI.
Le dossier du 9h nous emmène désormais en Turquie où l'opposition maintient la pression sur Recep Tayyip Erdogan. Après la mobilisation massive de ce week-end, de nouvelles manifestations vont être organisées cette semaine avec un double objectif, obtenir des élections anticipées et bien sûr la libération d'Erkem İmamoğlu, le maire déchu d'Istanbul, arrêté pour corruption le 19 mars dernier. Bonjour Daniel Valo.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial en Turquie avec Bertrand Eclair pour les moyens techniques. Cette contestation qui se poursuit en Turquie, elle est d'une ampleur sans précédent depuis 2013 et le mouvement du parc Gezi qui reste aujourd'hui encore dans toutes les mémoires.
Oui, la référence est incontournable. D'ailleurs, les autorités ont bouclé la place Taksim dès le début des manifestations. Des barrières métalliques entourent la place. Plusieurs véhicules anti-émeutes y sont stationnés. Pas question pour les autorités de laisser les partisans d'Ekrem İmamoğlu rejoindre ce lieu emblématique adjacent du petit parc Gezi que les manifestants voulaient alors protéger d'un projet immobilier. Le point de départ d'un mouvement de protestation auquel a participé Ali, aujourd'hui âgé de 35 ans, il en avait 23 à l'époque.
Au début, les manifestations étaient vraiment pacifiques. Et ensuite, les policiers sont intervenus très violemment. Et c'est devenu presque comme une guerre. Nous avons des amis qui ont été blessés très gravement et il y a eu des morts. Le frère d'un ami à moi a été touché à la tête par une bombe lacrymogène et il est décédé. Depuis ce jour, nous n'avons plus de respect pour le gouvernement ou pour la police.
Daniel, la place est occupée durant 10 jours. Son évacuation ultra-violente fait une dizaine de morts et la répression marque durablement l'opposition anti-Erdogan.
Oui, c'est pour cela qu'aujourd'hui, les manifestants qui demandent la libération d'Ekrem İmamoğlu y font constamment référence. Écoutez, cette habitante d'Istanbul qui a aujourd'hui la trentaine, elle n'a pas participé, elle, à la révolte de 2013, mais elle manifeste aujourd'hui quasiment tous les jours et elle fait un lien direct entre le mouvement actuel et celui du parc Gezi.
À l'époque, ce n'était pas seulement pour sauver des arbres ou un parc. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de défendre un homme politique emprisonné. Dans les deux cas, c'est un combat pour la démocratie. Et dans un cas comme dans l'autre, le point de départ est le même. On veut empêcher le peuple de se défendre et on veut le faire taire.
Gezi est donc considéré par de nombreux manifestants comme un prélude au mouvement actuel. À l'époque, les arbres du parc avaient été sauvés, le projet immobilier prévu à la place du parc abandonné, mais la violence policière et les arrestations ont marqué au fer rouge toute une génération. Et tous ceux qui ont vécu Gezi et qui ont participé au mouvement de 2013, s'inquiètent de voir aujourd'hui la répression policière étouffer de nouveau la contestation. Nous avons retenu les leçons de Gezi, nous a confié Ali à l'issue de notre entretien. Malheureusement, le gouvernement, lui aussi, les a retenus.
Merci beaucoup, Daniel Valo, en direct avec Bertrand Eclair pour les moyens techniques. Rappelons que 2000 personnes ont été arrêtées selon les chiffres officiels. Et parmi elles, des dizaines sont inculpées, risquant jusqu'à 3 années de prison. Le prochain appel à manifester du CHP, c'est mercredi soir devant la mairie d'Istanbul.
Au Soudan, le ton continue de monter entre les deux camps rivaux.
Ouais, ce week-end, Mohamed Hamdan Daglodi Emeti a admis la perte de Khartoum, mais a juré que ses troupes reviendrait plus forte. Le chef des paramilitaires refuse toute discussion avec l'armée régulière, qui de son côté exclut également toute négociation. Le langage des armes, dit Emeti, est désormais le seul qu'il envisage. Comment comprendre cette stratégie du refus? Que révèle-t-elle de l'état du conflit? L'analyse de Roland Marchal, chercheur à Sciences Po Paris.
Aujourd'hui, le débat, c'est est-ce que à suivre les déclarations publiques du général Burhan et de Emeti, on va vers une guerre totale au Darfour, ou est-ce que la voie d'une négociation ou d'une médiation reste possible? Moi, j'ai tendance à penser que le gouvernement soudanais a les capacités militaires dans les semaines qui viennent de lancer une offensive à la fois pour sécuriser donc le Kordofan, la région juste riveraine du Darfour. On peut évidemment penser dans le même temps à un renforcement de l'effort militaire autour d'El Fasher. Et puis, on peut également penser à une fragilisation du Tchad pour signifier que tout appui logistique aux forces de soutien rapide aurait des conséquences beaucoup plus importantes, sans aller forcément jusqu'au bombardement de l'aéroport de la capitale. Le scénario le plus réaliste à l'heure actuelle reste celui de la guerre.
Roland Marchal, chercheur à Sciences Po Paris, au micro RFI de Pierre Firsion.
Téhéran répond aux menaces de Trump et promet une riposte ferme.
Oui, le président américain qui a annoncé hier vouloir bombarder l'Iran en cas d'échec des négociations sur le nucléaire. Les autorités iraniennes ont donc réagi avec fermeté par la voix du guide suprême Ali Khamenei qui avertit que toute attaque contre l'Iran entraînerait une riposte ferme. Donald Trump qui continue de marteler sa vision protectionniste du commerce mondial. Le président américain a confirmé dimanche que les nouveaux droits de douane réciproques attendus mercredi viseront tous les pays et non ceux affichant un déséquilibre commercial avec les États-Unis.
RFI 9h10 à Paris, 7h10 en temps universel en France. C'est ce matin que Marine Le Pen sera fixée sur son sort judiciaire et politique.
Oui, dans moins d'une heure, le tribunal de Paris rendra son jugement dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National. Il dira s'il suit les réquisitions du parquet, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, 2 ans de prison ferme aménageable et 300 000 euros d'amende. Une décision lourde de conséquences pour la patronne du Rassemblement National à 2 ans de la présidentielle de 2027, Valérie Gasse.
Ça pourrait être un coup de tonnerre et un avis de tempête politique. En cas de condamnation à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, donc applicable immédiatement, Marine Le Pen ne pourra pas se présenter une nouvelle fois à l'élection présidentielle. Une mise à mort, une guillotine judiciaire, selon la chef des députés RN qui fait mine de ne pas y croire et d'attendre le jugement avec sérénité. Une réunion avec son entourage était tout de même prévue dimanche pour évoquer les scénarios alors que dans son camp, on ressent un certain flottement. Et parmi les adversaires de Marine Le Pen, beaucoup craignent une décision qui la mettrait hors jeu pour 2027. Une ministre s'attend à une campagne de presse virulente sur le thème « On prive le peuple de sa candidate ». Un autre membre du gouvernement affirme qu'on ne peut pas prononcer l'exécution provisoire sur l'inéligibilité car ce serait trop lourd de conséquences. À gauche, Olivier Faure ou Fabien Roussel estiment en revanche que la loi doit s'appliquer pour Marine Le Pen comme tout autre. Chacun ayant dans la tête la question de la riposte politique du RN, un projet de Marine Le Pen prévient, ça ne nous empêchera pas de censurer pour provoquer des législatives.
Merci beaucoup pour ces explications, Valérie Gasse.
SOS Océan, c'est l'alerte lancée à Paris par des scientifiques, membres de la société civile et quelques responsables politiques réunis pour un sommet dédié à la préservation des mers.
Et aujourd'hui, les participants vont publier un manifeste lu notamment par l'acteur Harrison Ford, accompagné d'un rapport scientifique sur l'état des océans et d'un autre sur les enjeux de l'économie bleue, les précisions de Pauline Glaise.
Un SOS lancé sur la base des dernières données scientifiques. Johan Rockström, directeur de l'Institut Potsdam de recherche sur l'impact climatique, dressera un bilan de santé des océans.
Tous les indicateurs de la santé des océans continuent à pointer dans la mauvaise direction. Et en plus, beaucoup d'entre eux changent plus rapidement que nous l'avions prévu.
L'importance de cette rencontre, préparer les esprits à 2 mois de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan pour que le sommet de Nice soit réussi. Pour cela, aux yeux de Johan Rockström, il faudra faire de la gestion durable des océans une priorité.
Nous avons besoin de plus d'investissements, de plus de politiques pour créer plus de zones marines protégées. Je pense aussi que le sommet de l'océan doit reconnaître la nécessité de mesures économiques pour punir les acteurs et les économies qui continuent de détruire l'océan.
Les mers, l'océanographe Sylvia Earle, les a vues se transformer au cours de décennies de plongée. Elle nourrit de grands espoirs dans ces 2 sommets.
Nous n'aurons jamais de meilleure opportunité que maintenant. Cela va devenir plus difficile. Alors je suis ravi d'être à cette conférence de Paris.
En discours de clôture, Emmanuel Macron devrait faire part de son ambition pour la conférence de Nice.
Pauline Glaise pour RFI.
Toujours, c'est aujourd'hui qu'est lancée la semaine olympique et paralympique.
Un programme mis en place en 2017 qui a pour but de mobiliser les jeunes autour de la pratique sportive. C'est ce qu'a pu constater Solène Ravenel.
Il est 11h, les élèves rentrent rapidement dans l'amphithéâtre. Ils ont tous hâte d'échanger avec Manon Apiti-Brunet, médaillée d'or aux Jeux Olympiques de Paris. Ils avaient préparé des questions pour mieux connaître son parcours et ont écouté avec attention les réponses de l'escrimeuse.
C'était incroyable parce que les JO, c'est pas n'importe quoi. Et en plus, médaillée d'or,
je suis très content aussi de la voir parce que je fais de l'escrime.
J'ai appris beaucoup de choses sur elle. Ça me donne vraiment envie de faire du sport de plus en plus.
Les élèves ont même eu le droit de sortir leur téléphone pour prendre des photos avec Manon Apiti-Brunet, mais surtout avec la médaille qu'elle avait apportée, reconnaît la marraine de cette semaine olympique et paralympique.
Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont envie de voir la médaille et souvent on se dit « bon bah je suis pas venue pour rien dès qu'ils voient la médaille » parce qu'ils sont tous très excités et très contents.
Mais si j'ai pu, avec mes réponses, je ne sais pas, donner envie à quelques-uns de faire de l'escrime ou faire du sport, et bon, on a tout gagné.
Et les échanges ont pu se poursuivre avec des raquettes et une petite balle, puisque Manon Apiti-Brunet a ensuite assisté à une séance de l'association sportive de tennis de table dans le gymnase du collège. Hélène a pu l'affronter dans un match.
C'était une bonne partie, c'était pas son sport, donc c'était bien aussi qu'elle pratique un autre sport avec des élèves.
Et malgré la défaite, Hélène se souviendra longtemps de cette journée particulière.
Reportage Solène Ravenel pour RFI.
Et c'était le journal de Guillaume Ouattara, il est 9h15 à Paris. Et on commence par la revue de presse, Frédéric Couteau, revue de presse internationale à la une, Donald Trump sur le sentier de la guerre commerciale.
Le Big One, s'exclame El País à Madrid, c'est le terme utilisé pour décrire un tremblement de terre catastrophique qui pourrait se produire en Californie. Le Big One, c'est également le nom que Donald Trump a donné à la série de taxes à l'importation qu'il prévoit d'imposer après-demain mercredi. Et en effet, soupire le quotidien espagnol, la plus grande salve de la guerre commerciale déclarée par le président américain contre le monde entier sera un séisme pour l'économie mondiale d'une ampleur inconnue et aux conséquences imprévisibles. Le monde entier attend avec impatience l'étape d'après-demain, à commencer par les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, notamment l'Union européenne, le Mexique, le Canada, la Chine, le Japon, l'Inde et la Corée du Sud. Et attention, prédit El País, ce nouveau scénario avec les représailles plus que probables des pays touchés va entraver la croissance économique, alimenter l'inflation et menace également d'accroître les tensions géopolitiques.
L'équipe Trump envisage des droits de douane plus importants et plus élevés, annonce le Wall Street Journal.
Oui, ces derniers jours, précise le quotidien économique américain, le président a poussé son équipe à être plus agressive, l'encourageant à concevoir des plans qui appliqueraient des taux de droits de douane plus élevés à un plus grand nombre de pays. Hier soir, Donald Trump a renforcé ce discours en déclarant qu'il viserait essentiellement tous les partenaires commerciaux des États-Unis. Ces derniers jours, précise le Wall Street Journal, des conseillers ont envisagé d'imposer des droits de douane mondiaux allant jusqu'à 20%.
Bientôt 3 mois que Donald Trump chamboule l'économie mondiale, mais aussi la géopolitique et les institutions de son pays. Et pendant ce temps, Frédéric, l'opposition démocrate reste bien silencieuse.
Pour le New York Times, il faut que les démocrates continuent de dénoncer le comportement autoritaire de Donald Trump, ses brimades à l'encontre des chefs militaires, des juges, des cabinets d'avocats, des universités et des médias, son mépris pour le Congrès, ses tentatives d'étouffer toute parole, sa trop grande tolérance à l'égard de secrétaires d'État incompétents. Le silence des démocrates sur ces questions ne ferait qu'encourager la timidité d'autres secteurs de la société, pointe le journal. Pour regagner la confiance des électeurs, les démocrates devraient prendre au moins 3 mesures, estime le New York Times. Tout d'abord, ils devraient admettre que leur parti a mal géré l'âge et l'état de santé de Joe Biden. Deuxièmement, les démocrates devraient reconnaître que le parti est allé trop loin sur certaines questions sociales, comme la décriminalisation de la frontière ou encore la chirurgie de transition de genre financée par le gouvernement. Enfin, relève encore le quotidien new-yorkais, le Parti démocrate doit proposer de nouvelles idées. L'un des avantages des tréquartiers du pouvoir est qu'il donne le temps de développer des idées et de voir lesquelles résonnent.
En attendant, c'est la grande déprime des démocrates, s'exclame Le Figaro à Paris.
Le Figaro qui constate la popularité croissante de la tournée du duo Bernie Sanders, 83 ans, et Alexandria Ocasio-Cortez, 35 ans, qui incarne le passé et la jeunesse du Parti démocrate. La popularité du vieux sénateur et de la jeune élue de New York se nourrit du profond désarroi de l'électorat démocrate, pointe le journal. Beaucoup de gens venus les écouter se disent préoccupés par le silence de leurs dirigeants face à un Donald Trump qui renverse impunément les normes et les règles. Au sentiment d'impuissance s'ajoutent les doutes des démocrates à l'égard d'une génération qui a mené leur parti à la défaite. Le Parti démocrate doit donc se réinventer. D'ailleurs, constate encore Le Figaro, une nouvelle génération d'élus appelle à se recentrer sur les préoccupations des électeurs, y compris dans des régions rurales quasiment abandonnées au Parti républicain, les town halls, ce système typiquement américain où les élus répondent aux questions de la population locale, se sont récemment multipliés. Exemple, dans le Colorado, le représentant démocrate Jason Crow, ancien soldat, attire une audience nombreuse, issue d'un milieu modeste. Il explique que son parti devrait s'adresser à ceux qui se douchent après leur travail et pas seulement à ceux qui se douchent avant d'aller travailler.
Frédéric Couteau pour la revue de presse internationale. En Turquie, ils sont en première ligne de la contestation massive contre le pouvoir. Les étudiants sont nombreux dans ces manifestations qui réclament la libération de l'opposant Ekrem İmamoğlu, mais ils manifestent aussi plus largement pour leur avenir qu'ils estiment menacé, bouché par le président Recep Tayyip Erdogan, seul président qu'ils aient connu d'ailleurs à Istanbul et Ankara. Anand Loar a rencontré plusieurs de ces jeunes en colère. Reportage.
Dans l'arrière-salle d'un petit café de la capitale, Ankara, Eren se remarque tout de suite. Elle a des cheveux rouges, un anneau sur le nez, de petites lunettes noires et une façon de parler qui transforme chaque réponse en un long plaidoyer. Eren veut devenir avocate. Elle a participé à toutes les manifestations contre la détention d'Ekrem İmamoğlu dans les rues et sur le campus de son université.
İmamoğlu est devenu un symbole et un catalyseur. Personnellement, et je pense que c'est le cas pour la plupart des étudiants, ma colère va au-delà du sort d'İmamoğlu. Bien sûr que je le soutiens, il est le plus grand rival d'Erdogan pour la prochaine présidentielle et c'est sans doute pour lui que veulent voter la plupart des jeunes. Mais si je manifeste, c'est aussi parce que j'en ai assez. J'ai 23 ans et depuis 23 ans, je n'ai connu d'autres dirigeants qu'Erdogan. Je n'ai jamais vu mon pays gouverné par d'autres idées que celles d'Erdogan. Je sors dans la rue parce que les violations des droits ont commencé bien avant ce qu'ils ont fait à İmamoğlu.
Eren et ses amis appartiennent à cette jeunesse turque qui s'est imposée dès le début, au premier rang de la contestation. Ces jeunes n'étaient que des enfants à l'époque de Gezi en 2013, quand des millions de manifestants s'étaient révoltés des semaines durant contre la destruction d'un parc sur la place Taksim d'Istanbul. Cette génération post-Gezi, certains la disaient apolitique. Certes, hostile à Recep Tayyip Erdogan, mais pas engagée pour autant. Pour Öşük, une autre étudiante habituée des manifestations féministes, c'est un cliché.
Non, il n'y a pas de jeunesse apolitique. Il y a une jeunesse qu'on essaie de rendre apolitique. C'est vrai que quand il y avait une manifestation et que je les invitais à participer, par exemple pour le 8 mars ou le 1er mai, la plupart répondaient « Non, je ne peux pas venir ».
Grâce au mouvement des derniers jours, Öşük veut croire que quelque chose est en train de changer.
Cela fait 4 ans que j'étudie dans une faculté de droit où les étudiants et les enseignants nationalistes pro-pouvoir sont majoritaires. Et même là, je vois que certains commencent à changer d'avis ou d'attitude, que d'autres surmontent leur peur et viennent manifester. Ça se fait lentement, mais sûrement. Et je pense que ça va continuer. Quelque chose est en train de se briser. Ça me donne de l'espoir.
N'aie pas peur, ne te tais pas, sinon ton tour viendra. Ces slogans ont beaucoup de succès parmi les jeunes manifestants. Anand Loar, Ankara, RFI.
Et vous écoutez vous retrouvez ce reportage international d'Anand Loar en longueur sur le site de RFI, rubrique podcast Accent d'Europe. 3 jours après le séisme, les chances pour retrouver des survivants dans les décombres se réduisent. Les secours poursuivent toutefois leurs opérations en Birmanie et en Thaïlande. Ce séisme a fait au moins 1700 morts dans ces deux pays. La Birmanie, débordée par l'ampleur de la catastrophe, la junte militaire au pouvoir a lancé un appel à l'aide internationale, elle qui est frappée par de nombreuses sanctions économiques. Quelques organisations étrangères qui étaient présentes au moment du tremblement de terre ont pu s'activer très vite. Pour les autres, en revanche, c'est une organisation très compliquée. Philippe Besson dirige Pompiers de l'Urgence Internationale, une ONG spécialisée dans le secours aux victimes de catastrophes naturelles. Philippe Besson est avec Vincent Souriau.
Bonjour Philippe Besson, vous êtes sur les starting blocks depuis vendredi. Qu'est-ce qui vous empêche d'être déjà en Birmanie pour aider les opérations de secours ?
C'est vraiment un gros challenge. Là, on a une équipe, depuis vendredi matin, l'équipe est constituée. Et selon les normes des Nations Unies, on est prêt. Mais on ne trouve pas d'avion, c'est très long, il faudrait 2 jours pour arriver, 1 jour pour monter par la route, si on se pose à Rangoon, parce que les deux aéroports, Mandalay et puis la capitale, ils sont endommagés par le séisme, donc ils sont pas opérationnels. Donc faut se poser à Rangoon, et de Rangoon pour monter à Mandalay, faut entre 17 et 20 heures de route. Et on peut pas rouler la nuit, vous voyez, ça retarde encore le truc, quoi.
Et puis il y a des bombardements.
A priori, oui, il y aurait un cessez-le-feu, mais partiel. Il y a des problèmes de sécurité. Plusieurs bâtons dans les roues, là, pour se déployer. Nous, on demande que ça. On y travaille depuis vendredi matin, mais c'est épuisant parce qu'on trouve pas de solution, quoi. On veut bien envoyer 40 sauveteurs, il n'y a pas de problème, mais 40 sauveteurs à 4 000 euros le billet d'avion, vous voyez la facture, quoi.
Il y a des équipes qui sont déjà entrées, hein. Qu'est-ce qu'elles vous disent de l'organisation de leur travail, de l'accès aux zones sinistrées?
Et les équipes qui commencent à arriver, notamment des équipes asiatiques, parce qu'il y a la Chine, les Russes, les Chinois, Singapour, ils ont énormément en difficulté pour se déployer. Ce qui devrait par exemple être en place, c'est ce qu'on appelle un centre de réception et de départ des équipes internationales. Un point d'entrée dans le pays de toutes les équipes qui interviennent du monde entier. Et ça, ce point, ils n'arrivent pas à le mettre en place. Ça pose des soucis de coordination. Il y a au moins 80 équipes internationales qui sont prêtes à se déplacer en Birmanie. S'ils disent on accepte l'aide internationale sans donner de précision et que vous avez 80 équipes qui arrivent en Birmanie, ça va être une catastrophe dans la catastrophe. Vous avez des équipes de différentes tailles, vous avez des équipes gouvernementales, vous avez des ONG, vous avez des équipes qui arrivent et ils sont 5, vous avez des équipes qui arrivent sur 80, et il y a tout ça à gérer. Après, je pense qu'il y a une méconnaissance du système international, la Birmanie soit un petit peu à l'écart.
Votre plus-value à vous, Philippe Besson, si vous parvenez à vous déployer, qu'est-ce que vous allez apporter au secours birman qui pourrait manquer sur place ?
Bon, déjà, on a des chiens de recherche, on a des appareils électroniques pour localisation des victimes, on a des scanners de recherche, du matériel médical qu'on met à disposition, on a toute la partie coordination, on ne peut pas faire n'importe quoi pour pas se jeter sur le premier immeuble qu'on va trouver, au risque de travailler sur un immeuble où il n'y a personne, qui est vide. Donc il y a toute une phase de coordination qui est très importante pour gagner du temps, se concentrer sur les immeubles où il y a des victimes. C'est tout ça qu'on apporte. Et on apporte, nous, une autonomie complète, hein, parce qu'on a station de potabilisation d'eau, on a un groupe électrogène, on a tout, quoi. Contrairement aux équipes locales qui, à mon avis, doivent manquer de pas mal de choses.
Ouais. Merci beaucoup, Philippe Besson.
Philippe Besson de l'ONG, pompier de l'urgence internationale, avec Vincent Souriau.
RFI Matin.
Deuxième et dernier jour du sommet SOS Océan. Aujourd'hui à Paris, le président Emmanuel Macron réunit des scientifiques, des politiques. Harrison Ford, star d'Hollywood, lira un manifeste qui devrait être signé normalement par une autre star, Leonardo DiCaprio. Des stars qui s'engagent face à la crise climatique. C'est la question d'environnement du jour avec vous, Florent Guignard. Et au fond, Florent, à quoi sert Leonardo DiCaprio ?
Eh bien, le beau gosse du Titanic est l'une des stars les plus engagées pour l'environnement. Exemple, à la présidentielle des États-Unis, appelle à voter pour Kamala Harris et son principal argument, c'est la planète contre le climato-négationniste Donald Trump.
Donald Trump continue de nier les faits. Le changement climatique tue la Terre et ruine notre économie.
L'engagement de Leonardo DiCaprio ne date pas d'hier.
Non, il y a plus de 25 ans déjà, il crée une fondation qui porte son nom en toute simplicité. Côté cinéma, il a produit des documentaires sur le sujet. Et puis, vous vous en souvenez sûrement, Marion, il y a son rôle dans le film Don't Look Up, une métaphore sur le déni climatique. Il jouait un scientifique qui parle dans le vide. Au passage, on espère que c'est pas le sort de cette chronique.
Ça pourrait vraiment tourner au désastre.
C'est déjà un désastre.
T'es la fille de la télé qui a dit qu'on allait tous crever ?
Bon alors Florent, on va tous mourir ?
Ouais, j'en ai bien peur Marion, sauf si on agit. Et c'est ce que dira tout à l'heure Harrison Ford dans son message vidéo. Personne d'autre ne viendra nous sauver. Mettons-nous au travail. C'était déjà son message il y a 2 ans sur France 2.
And if we don't get off si on ne se bouge pas le cul maintenant, on va perdre cette planète.
We're gonna lose this place.
Et pour Emmanuel Macron, avoir des stars à ses côtés pour défendre les océans, c'est plutôt chic.
Oui, peut-être, mais est-ce que c'est efficace ? Déjà, il y a parfois une petite contradiction entre le discours de ces stars sur la crise climatique et puis leurs actes. C'est l'analyse de Florent Gougou, il est chercheur en sciences politiques.
À quel moment les célébrités portent-elles un message de sobriété ? Leur style de vie est tout sauf sobre. Un exemple typique de ça, c'est Lewis Hamilton, le champion de Formule 1, qui est vegan. Très bien. Et en même temps, il conduit des Formule 1. Ces Formule 1 dont on sait qu'elles sont transportées entre chaque Grand Prix par des avions.
Ah, les avions. Harrison Ford, il en a 6. Quant à Leonardo DiCaprio, lui, il préfère les yachts.
Il faut donc relativiser l'influence des célébrités.
Oui, c'est ce que nous dit Florent Gougou.
L'information sur les connaissances scientifiques liées aux transformations du climat, la chute de la biodiversité d'une part, l'expérience réelle aussi de ces effets, le réchauffement des températures pendant l'été, les tensions sur la ressource ont bien plus d'effets sur les prises de conscience des individus que l'engagement de telle ou telle célébrité.
Bon, on imagine quand même qu'Emmanuel Macron adorerait faire un selfie avec Leonardo DiCaprio, ça fait toujours son petit effet, ça fait parler dans les médias, ça fait écrire des papiers. C'est d'ailleurs ce qu'on vient de faire.
Ah bah oui, on aime aussi les paillettes. Merci Florent Guignard pour la question d'environnement. 9h28 à Paris, 7h28 en temps universel. Restez avec nous sur RFI dans un peu plus d'une minute maintenant. C'est le retour de l'actualité africaine.
RFI Matin.
Écoute.
Découvrez l'exposition Paris Noir au Centre Pompidou à Paris. Paris Noir met en lumière 150 artistes africains, caribéens et africains-américains qui ont fait de Paris un foyer de création et d'engagement, de liberté et de résistance des années 50 aux années 2000. Ils sont célébrés pour la première fois en France. Paris Noir, circulation artistique et lutte anticoloniale jusqu'au 30 juin au Centre Pompidou à Paris. Plus d'informations sur centrepompidou.fr. En partenariat avec France Média Monde.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker.
Je vous retrouve deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, dans l'Afroclub, terrain incontournable des musiques afro-urbaines d'Afrique et de ses diasporas. Deux fois plus de groove, une séquence rétro indispensable et en prime, une vidéo des tendances de la semaine à voir sur RFI Musique et tous nos réseaux sociaux.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker. Tous les mardis et jeudis dans Afrique Soir.